Sur Radio Campus Lille 106.6 FM, on va donc avancer dans cette programmation avec cette visite de la nouvelle scène qui est cette grande avenue, on va dire, qui présente des œuvres dans l'ordre chronologique, la Galerie du Temps, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, qui est au Louvre-Lens, au musée du Louvre-Lens, donc. Et après plus de 10 ans, eh bien, cette salle très grande vient de faire peau neuve en accueillant de nouvelles œuvres et en proposant certaines à d'autres musées qui font donc un peu le tour du monde. Donc la première personne que je vais vous présenter, eh bien, c'est Hélène Bouillon. Hélène Bouillon, elle a un rôle très important dans ce musée du Louvre-Lens, puisqu'elle est docteure en égyptologie et spécialiste des relations entre l'Égypte et le Proche-Orient ancien, mais elle est aussi directrice de la conservation des expositions et des éditions du musée Louvre-Lens. Donc, quelqu'un que j'aime beaucoup interviewer. Bon, là, je ne vais pas donner la part belle aujourd'hui, mais je tenais absolument à ce qu'elle présente un peu le cadre un peu de la visite que vous pourrez faire au musée, sachant que la Galerie du Temps ouvre aujourd'hui. Et oui, donc c'est le moment, à partir d'aujourd'hui, jusque, voilà, quand vous voulez. Cette exposition-là dans la Galerie du Temps, elle va rester un bon moment en place, hein, puisque la dernière a mis plus de 10 ans à changer radicalement. Donc voilà, je vous propose d'écouter Hélène Bouillon, donc pour un peu ce qui est scénographie dans ce musée.
Hélène Bouillon, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc à un moment important aujourd'hui avec, on va dire, des collections peut-être en partie renouvelées, même beaucoup, et présentées d'une nouvelle manière. Qu'est-ce qu'on peut dire de la scénographie d'une certaine manière? Est-ce que des choses ont changé?
Beaucoup de choses ont changé parce que renouveler l'entièreté des œuvres, hein, il n'y a que 10 petits chouchous qui restent, qui étaient les mêmes. Donc plus de 95% de la Galerie du Temps est renouvelée et donc il fallait renouveler la scénographie. Et on a voulu une scénographie qui rende le visiteur encore plus libre de son parcours. Et c'est pourquoi là, toutes les œuvres que vous voyez autour de vous ont spécifiquement leur vitrine propre ou leur cimes propre. Et on a un parcours encore plus fluide qu'avant, je dirais.
Donc il y a des écriteaux, des présentations des œuvres, peut-être en deux parties même souvent.
Oui, on a en fait pour chaque œuvre, on a deux types de cartels. On a le cartel classique avec le texte qui explique pourquoi l'œuvre est là, ce qu'elle représente, etc. Et on a à côté de ce cartel classique, texte, on a un cartel en dessin. Qui invite le visiteur à le regarder autrement, peut-être aussi en simplifiant un petit peu le propos pour être accessible au plus grand nombre, ou alors qui invite le visiteur à faire de l'œuvre quelque chose, une autre expérience, par exemple en méditant ou en dansant à côté de l'œuvre.
Est-ce qu'il y a éventuellement pour les gens qui veulent écouter des explications dans une autre langue encore des possibilités?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça, c'est un renouvellement qu'on avait fait il y a quelques années. On a toujours l'audio guide qui permet d'écouter les explications en anglais et en néerlandais.
Donc là, tout a changé, j'imagine, dans la présentation.
Oui, tout à fait. Ça a été un travail extrêmement important de nos collègues de la médiation pour renouveler l'entièreté de la médiation, puisqu'on renouvelait l'entièreté des œuvres.
Voilà, donc de nouvelles œuvres à s'approprier.
Exactement, je pense de nouveaux chouchous à avoir avec un... Comment dire, on a eu un soin particulier à les choisir pour qu'elles parlent à tous les publics. Donc on a beaucoup d'œuvres autour du vivant, autour des animaux, autour des plantes. On a une thématique aussi tout au long de la Galerie du Temps sur l'expression de soi. Et bon, on espère justement que ça va toucher tous les publics.
Deuxième rencontre que je vous propose dans ce musée du Louvre-Lens, elle est la directrice du musée, elle s'appelle Annabelle Ténèze.
Je dirais que c'est le renouvellement d'une réussite, puisque la Galerie du Temps, comme je le rappelle, en 2012, elle a été un choc de découverte, de voir cette nouvelle manière de présenter les œuvres qui était très inédite. Il y a des collègues du monde entier, de plusieurs continents, qui viennent nous voir. Le mois dernier, on a reçu des collègues de Corée du Sud, des collègues du Bangladesh. Il y a quelques mois, des collègues américains, des collègues africains. Et donc, il y a l'idée vraiment de garder ces grands principes qui ont fait la force, mais aussi d'apporter toute l'expertise qu'on a eue ces dernières années, qu'on a gagnée ces dernières années, notamment tout ce qu'on a appris avec le public et qu'on retrouve particulièrement dans ce renouvellement de la médiation. On a aussi appris qu'on pouvait jouer encore davantage avec les reflets, avec les parois d'aluminium. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être moins fait précédemment et c'est quelque chose avec lequel on s'est beaucoup amusé dans la scénographie. Vous pourrez aussi regarder les œuvres via leurs reflets comme des sortes de fantômes ou tout simplement de sortes de reflets qui nous permettent de poursuivre le temps. Donc on a aussi appris de tout ça pour rendre la Galerie du Temps à la fois dans ses grands principes, mais aussi avec des nouvelles identités, comme vous le soulignez. Il faut savoir qu'on a gardé 10 œuvres chouchous, et notamment une œuvre chouchou particulière, qui est Goudéa, qui était la sculpture, la figure qui accueillait dans la présente Galerie du Temps, qui était au début de la Galerie du Temps, et elle est toujours là. C'est aussi une manière de faire le lien avec la Galerie du Temps première génération. Alors en fait, quand vous venez dans la Galerie du Temps, l'idée c'est que vous pouvez choisir votre chemin et que de toute façon, le chemin que vous choisirez sera le bon. Mais on a travaillé particulièrement à des textes qui sont en entrée de la Galerie du Temps, que vous pouvez choisir de lire ou ne pas lire, mais qui vous disent d'où viennent les œuvres. Parce que quelqu'un qui rentre dans un musée, il ne sait pas forcément d'où viennent les œuvres. Est-ce que les œuvres ont été créées pour le musée ou au contraire, comment elles y sont arrivées? Comment est-ce qu'on navigue sur ce fleuve du temps, puisque c'est le nom qu'on a donné à cette scénographie? Tout ça, pour nous, c'était très important de donner ces éléments-là. On a aussi, pour ceux que ça intéresse, parce qu'on sait que ça intéresse beaucoup de gens, des éléments de cartographie numérique pour comprendre d'où est la géographie des œuvres. Donc vraiment, c'est important de se dire que vous serez accompagné dans la Galerie du Temps par des humains, l'équipe du musée, que vous serez accompagné par des textes, que vous serez accompagné par des images, mais aussi que vous serez libre de découvrir quelque chose peut-être qu'on a aussi créé pour cette nouvelle Galerie du Temps deuxième génération. C'est l'idée que vous pourriez aussi le faire en remontant le temps. Donc on a travaillé particulièrement la fin où vous avez des œuvres au revers des dernières cimaises et qui vous montrent en fait que ces œuvres de fin, elles pourraient aussi être celles du début. Donc mon conseil, c'est la première fois, descendez le temps, puis la fois suivante, remontez le temps. Il y a vraiment toutes les manières possibles de découvrir la galerie. Je pense que ce qui est très important dans cette Galerie du Temps et qu'on montre aussi en ayant invité cette fois-ci des œuvres aussi venant des collections d'autres musées qui permettent aussi de montrer l'art en Europe en parallèle de l'art africain, en parallèle de l'art en Asie, en ayant invité aussi des artistes contemporains à travers les yeux desquels on peut découvrir les œuvres, c'est l'idée qu'il y a plusieurs manières d'écrire l'histoire. Il n'y a pas une seule manière d'écrire l'histoire. On le voit particulièrement aussi dans l'exposition de Roméo Mufkanin, qui est au pavillon de verre, qui est donc au bout de la Galerie du Temps, où il réinterprète un certain nombre d'œuvres, des chefs-d'œuvre peints de la Galerie du Temps, une exposition assez extraordinaire. Et donc cette idée, c'est qu'il y a beaucoup de manières d'écrire l'histoire. On en propose une, avec des fils rouges, l'humanité, le visage, les animaux, également les végétaux. Mais il y a beaucoup de manières d'écrire l'histoire de l'art, et on peut en écrire plein ensemble. Et donc le renouvellement de la Galerie du Temps, c'est aussi dire ça. Et c'est aussi se dire, et ça je pense que c'est très important, que les collections nationales appartiennent à tout le monde, qu'elles doivent être sur l'ensemble du territoire et que le Louvre fait cette action très forte de partager largement les collections nationales, les chefs-d'œuvre, les redécouvertes, et que ça, c'est très, très important, cette égalité d'avoir accès à l'art où que l'on soit.
Est-ce que dans cette galerie du temps, vous avez encore des périodes où il manque des œuvres à présenter au public, alors soit dans la dimension universelle internationale, ou même plus récemment ici, dans notre période, on va dire, presque contemporaine?
Alors, je crois qu'on peut se dire qu'on ne sera jamais exhaustif, ni dans une galerie du temps, ni dans n'importe quel musée. Sinon, le musée serait gigantesque, hein, encore plus grand que le Louvre à Paris. Mais par contre, je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de rencontres de civilisations différentes et que ces rencontres, elles ont beaucoup de sens. Donc évidemment, à des moments, on aurait pu choisir d'autres œuvres plutôt que certaines. Mais ça, c'est le jeu de devoir choisir 250 œuvres. Lorsqu'on choisit 250 œuvres, on a des coups de cœur, on a forcément des regrets. Mais à ce rythme-là, il nous faudrait une galerie du temps qui fasse le double de la taille, mais ce serait vraiment immense.
Est-ce qu'il y a des civilisations qu'on redécouvre ou qu'on découvre presque ici?
Je pense qu'il y a ce qu'on découvre, particulièrement dans le dialogue entre les civilisations, c'est qu'en fait, il y a vraiment d'étonnants points communs entre nous et ceux qui ont existé il y a plusieurs milliers d'années. Et ça, je pense que c'est important de se dire que le rapport à la vie, le rapport aux animaux, le rapport à la mort, en fait, c'est quelque chose qui caractérise les humains de toute humanité, de toute actualité, de toute période. Et je pense qu'au-delà des différences, je trouve que ce qui me frappe, c'est aussi les ressemblances. Il y a un très beau tableau de Le Sueur qui est une réunion d'amis et on voit... lui, un ami qui est identifié, sûrement tous les autres devaient s'identifier à l'époque, mais aujourd'hui, on ne sait plus tous les reconnaître. Mais quoi de plus fréquent? Quelle expérience on a tous de se retrouver autour d'une table, entre amis, et d'avoir chacun nos activités? Eh bien, l'amitié, c'est un thème, par exemple, qui traverse entièrement la galerie du temps. Et ça, c'est pour ça que je dis qu'on trouve autant de différences que de ressemblances.
Vous avez invité un artiste dont les ancêtres sont du Dahomey.
Oui.
Et donc, c'est quelque chose d'assez nouveau de faire découvrir cette civilisation du royaume de Dahomey.
Alors, c'est vrai que ce qui est important pour nous, c'est aussi de montrer ces rencontres des civilisations aussi bien dans l'art ancien que dans l'art contemporain. Donc, dans les artistes qui sont présents dans la Galerie du Temps, vous avez aussi bien Giulia Andreani, qui est italienne, Eva Nielsen, qui est franco-danoise, Jean Clarac, qui est français, Kent Monkman, qui est un Canadien d'origine Cree. Les Cree, c'est un peuple autochtone amérindien très présent en Amérique du Nord. Zanele Muoli, qui est d'Afrique du Sud, et aussi donc Roméo Mifkanin, qui est originaire du Bénin, et qui montre aussi comment est-ce qu'on peut relire l'histoire de l'art en créant des ponts entre aussi bien l'histoire de l'art, de la peinture, de la grande peinture occidentale, que des liens avec l'histoire de l'art africain. C'est aussi ça, les rencontres au sein de la Galerie du Temps. Alors évidemment, on attend tout le monde pour le 4 décembre, qui est l'inauguration, la date de la Sainte-Barbe, et aussi particulièrement pour la grande fête du samedi soir, qui sera la grande fête du Festival de la Sainte-Barbe, et où vous aurez la surprise d'avoir un feu d'artifice, des fanfares, un bal, mais aussi, ça c'est une grande première, les œuvres de la Galerie du Temps seront projetées dans un mapping animé et musical, et donc ce seront les œuvres de la Galerie du Temps qui sortiront elles-mêmes pour l'arrivée des visiteurs et des visiteuses. Ce sont les œuvres qui vous accueillent ici.
Voilà donc Annabelle Ténèze, donc la directrice du musée du Louvre-Lens, qui présentait d'ailleurs un artiste invité et qui occupe un bel espace, hein, le pavillon de verre, qui est un très très beau lieu, qui s'éclaire selon la lumière naturelle. C'est vraiment un lieu qui est très, très émouvant, parfois à certaines heures du jour, la nuit, je ne sais pas. Voilà, donc je vous propose de découvrir cet artiste Roméo Mifkanin.
Je m'appelle Roméo Mifkanin, artiste.
Voilà, et donc vous exposez ici une, je ne sais pas si on peut dire déjà une collection.
Oui, oui, au fait, au pavillon de verre, qui est constitué d'une architecture qui reflète la ville, que je trouvais très intéressant par rapport à la lumière, parce que c'est un bâtiment qui met aussi le musée en mouvement. Ouais.
Et donc, vous avez réalisé ces tableaux, qui sont souvent de grands tableaux, de grands formats, hein, avec des thèmes qu'on peut retrouver dans l'histoire du monde.
Oui, c'est vrai, c'est des tableaux qui réinterprètent l'histoire au fait de l'art en Occident, en Occident, mais en même temps au fait qui questionnent sur la condition humaine généralement dans le monde. Ouais.
Et donc on retrouve notamment vos origines africaines dans ces tableaux, des allégories d'une certaine manière.
Oui, c'est vrai que j'utilise souvent l'autoportrait comme subversion au fait dans ces toiles. Parce que, au fait, il y a un jeu de rentrer dans le tableau par effraction. Parce que le but de cette toile-là, enfin, s'il y en a un, c'est que les gens, au fait, c'est créer un théâtre, une pièce théâtre dans laquelle les gens se réapproprient l'histoire et se réapproprient les différents rôles dont ils auraient été l'objet, donc dont je suis aussi l'objet d'une certaine manière. Parce que la première fois que j'ai visité des musées en Europe, ce qui me frappait, c'est que les femmes ou les personnes étrangères étaient souvent relayées au second rôle dans le tableau. Et donc, je trouverais intéressant au fait d'utiliser le système de subversion comme on fait au théâtre pour renverser au fait la perception. Et justement, au fait, ces tableaux qui ont constitué au fait la moelle épinière ou l'épine dorsale de l'histoire du monde est une histoire qui a été écrite par les vainqueurs, donc par l'Occident. Donc je trouvais intéressant que de la partie du monde d'où je viens, du sud du monde, au fait, cette fois-ci reprend, au fait, se réapproprie cette histoire et le donne à voir, au fait, depuis son regard.
Est-ce que vous avez déjà des réactions par rapport à ces œuvres-là, si elles ont été présentées ailleurs, du public qui, d'habitude, voit les originaux de ces tableaux dans un contexte très différent?
Souvent, ça crée des discussions, mais souvent, c'est très, très amusant. Souvent, il y a toujours un effet, au fait, je ne sais pas comment on dit... comique parce que au fait c'est parler parfois de sujets graves mais à partir de la comédie ou à partir des blagues et donc souvent ça renvoie beaucoup à des blagues mais je trouve c'est intéressant de parler des sujets graves mais à partir de la subversion de ouais, c'est
peut-être qu'on pourrait parler un petit peu du royaume de Dahomey qui est pas très connu ici. Est-ce que vous en avez une expérience particulière?
Oui, effectivement, je viens de l'Est Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin. Et le Dahomey a connu une histoire très, très forte avec la France, puisque le dernier roi de Dahomey, qui est mon ancêtre, a été déporté lui-même en Martinique et est décédé en Algérie. Et d'où on trouve un de ses toiles qui est dans la galerie de l'exposition Exil, justement, au fait, de sa venue du Béanzin, la venue de Béanzin, au fait, à Marseille.
Ouais. Donc ici, on voit un tableau où on voit, j'allais dire, son univers de roi, d'empereur presque, d'un empire qui était grand à l'époque.
Ah, le Dahomey, la première loi du Dahomey, c'était de l'élargir le plus possible. Donc, on dit souvent que le Dahomey est né d'un conflit de voisinage. Donc, ils ont fait beaucoup de guerres, notamment au Nigeria et au Ghana. Mais c'est vrai que c'était des rois conquérants, quoi, les rois du Dahomey, souvent.
Et donc on voit des symboles en haut de la maison là, du roi, hein, je ne sais pas si on peut dire son palais.
Oui, son palais. Au fait, oui, c'était une tonnelle qu'on utilisait quand il sortait du palais. Et la plupart des symboles qu'on voit, au fait, c'est des symboles qui... Enfin, souvent, au fait, les rois d'Abomey, on ne pouvait pas les représenter parce qu'ils venaient directement de Dieu, mais ils avaient un double animal. Donc c'est ces symboles, au fait... qu'on voit au fait en dessus de la toile, justement, qui est représentée.
Et l'exposition qui est ici, elle va être présentée jusque quand?
Elle est ici pendant 6 mois, je pense, l'exposition, ouais.
Et sinon, vous exposez ailleurs, quoi? Vous travaillez sur quoi en ce moment?
Ah, c'est intéressant. Ah, je travaille beaucoup de choses en ce moment parce que, au fait, prochainement, je vais exposer en Italie, aussi à Berlin, et aussi aux États-Unis l'année prochaine. Donc, je travaille beaucoup en ce moment.
Où vous semble être actuellement l'épicentre, on va dire, de la culture, notamment artistique, et plus particulièrement de tout ce qui est peinture, etc.
Ah, je pense que la France joue un grand rôle, malgré ce qu'on peut dire. Au fait, je pense que les artistes français sont très demandés dans le monde, et à cause du regard qu'ils peuvent avoir, du regard rafraîchissant qu'ils peuvent avoir. Et c'est un pays souvent où on critique beaucoup les choses. Donc ça intéresse les gens dans le monde, ouais, d'avoir des avis, en tout cas d'avoir des expositions des artistes français. Ouais.
Et la place des musées français dans le monde ?
Ah, moi, je pense que, enfin, c'est comme quand on parle du Louvre, en fait, c'est un musée qui est reconnu, et dont tout le monde associe forcément la naissance même du musée. Donc, oui, c'est vraiment, enfin, on ne peut pas nier, en fait, la place et la force de la France dans le monde de l'art. Ouais.
Ben, merci de nous faire connaître cette culture, cette histoire, et puis votre travail d'artiste.
Merci beaucoup, merci.
Voilà, donc très très belle exposition de cet artiste, hein, et franchement ses œuvres sont pas choquantes mais dérangeantes parfois, franchement vous allez être troublés, donc n'hésitez pas à vous rendre compte par vous-même, et franchement c'est un super travail, hein, bravo. Donc voilà, visite du Louvre Lens, hein, c'est un grand moment bon, aujourd'hui, hein, la réouverture de cette galerie du temps. Et puis ça a été annoncé des animations autour de cette fête de la Sainte-Barbe jusque samedi au moins. Je vous conseille aussi, si vous y allez, de visiter l'exposition Exil, exposition temporaire. Je vais vous en donner un petit aperçu au travers de cette interview que j'avais réalisée lors de la visite de presse avant l'ouverture de l'exposition Exil, donc sur Radio Campus 106.6 FM, on essaye d'être complet quand même. Hein. Donc une interview de cette conservatrice générale chargée de mission auprès de la présidente directrice du musée du Louvre, elle s'appelle Dominique de Fonréau.
Donc je suis Dominique de Fonréau et je suis la commissaire de l'exposition au Louvre-Lens, Exil, regard d'artiste.
Donc une exposition importante et très riche, très diverse aussi, de par ces artistes qui viennent de loin et qui sont dans des situations parfois complexes. Donc l'exil, il peut y avoir plusieurs causes à l'exil, hein, et des artistes qui viennent en France notamment, il y en a quand même beaucoup.
Oui, l'exposition, elle essaye de réunir les œuvres sur le temps long. Hein. L'œuvre la plus ancienne a environ entre 4000 et 4500 ans. C'est une œuvre des antiquités égyptiennes du Louvre. Et l'œuvre la plus récente a été finie il y a quelques semaines. Donc on est vraiment sur le temps long. C'est ça aussi qui m'a intéressée, c'est que c'est une notion qui n'est pas ancrée dans une actualité particulière, mais c'est une notion qui est d'une certaine manière au cœur de notre condition et de notre destinée humaine.
Donc nous, on a toujours l'idée de déplacement de population en masse parfois lié à des circonstances de climat, etc. On peut parler peut-être du déluge ou des choses qui ont été à la fois des mythes mais aussi peut-être des réalités.
Oui, absolument. Ça, c'est un point important, c'est que les textes anciens, que ce soit ceux de la Bible, que ce soit l'Odyssée, que ce soit l'Énéide, ou que ce soit le Ramayana, par exemple, aussi en Inde, nous montrent tous des récits d'exil, hein, et de façon assez forte, qui sont aussi des récits de conquête de soi. Hein. Ce qui est important, c'est que l'exil a toujours deux faces, à la fois quelque chose qui pourrait être l'ordre d'une damnation, d'une condamnation, mais aussi d'une opportunité ou d'une aspiration. Donc ça, c'est important de le dire. Et c'est vrai que si on prend par exemple le déluge, il est probable hein, que les déluges décrits dans la Bible étaient liés à des désordres climatiques, peut-être à la montée du Tigre et de l'Euphrate à ce moment-là dans la plaine de Mésopotamie, ou aussi la montée du Nil en Égypte. Mais ça fait écho aussi à ce qu'on connaît aujourd'hui hein, et à ces enjeux de désordre climatique aujourd'hui. Et ça me frappe beaucoup, et c'était vraiment l'intention de l'exposition, de pouvoir confronter à la fois d'œuvres d'artistes anciens, comme par exemple la très belle œuvre, hein, le chef-d'œuvre d'Antoine Carrache qui nous est prêté par le département des peintures du Louvre, et puis des œuvres comme celle d'Enrique Ramirez qui a travaillé dans la région, hein, puisqu'il a été pensionnaire au Frénois, et qui réinterprète ce mythe du déluge en construisant une sorte de voile qui est en hommage avec les populations d'Amérique du Sud victimes des désordres climatiques. Donc ça me semble très fort de montrer que il y a des formes d'invariants et sur lesquelles la représentation artistique à la fois décale, reprend, n'est pas dans l'illustration, mais plutôt dans le sort de quelque chose qui est de la réinvention, d'une certaine manière.
Est-ce qu'on peut dire que le public est plus sensible qu'avant à ces choses, puisque le climat change, on voit les effets maintenant, hein, et puis les guerres se rapprochent?
Je pense que, honnêtement, on le dit aujourd'hui parce qu'on vit tous en 2024, évidemment on est sensible à ça, mais je pense, vous voyez, l'exposition aurait eu lieu juste après la Seconde Guerre mondiale, on aurait pensé la même chose, ou elle aurait eu lieu juste au début des années 1960, on aurait aussi pensé la même chose. Enfin, je parle de période relativement récente, et donc je crois qu'en fait, la force d'une notion comme celle-là, c'est qu'elle est actuelle aujourd'hui, et elle aurait été actuelle hier et elle sera actuelle demain. C'est-à-dire que cette aspiration à devenir soi que marque l'exil, parce que c'est ça aussi l'exil, elle est profondément ancrée dans notre condition humaine.
Donc l'exil est parfois un drame, parfois une chance, à la fois pour l'exilé et pour celui qui l'accueille.
Bien sûr, ça c'est absolument évident, et ça on le voit bien. Regardez, on est au cœur de l'exposition ensemble. Que serait l'art français sans Marc Chagall, que je regarde là à l'instant? Que serait l'art français sans Pablo Picasso? Voilà, et je prends ces deux exemples parce que je les ai sous les yeux. Ou de façon plus récente, que serait aussi la création contemporaine française sans une artiste d'origine coréenne comme Kim Soja, dont la très belle vidéo nous a été prêtée par le Magva à la Vitry, hein, qui s'est beaucoup engagé à nos côtés dans ce projet. Donc oui, évidemment, c'est là où il faut se garder de penser et de penser des choses entre eux et nous. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est nous tout seuls, en fait. C'est nous tous ensemble. Et ce nous tous ensemble se construit, se tisse dans ce rapport entre des personnes différentes, celles qui arrivent, celles qui accueillent, celles qui repartent et qui sont de nous, qui sont accueillies ailleurs. Enfin, voilà, ça me semble évidemment important. Et ces trois exemples que je prends, parce qu'on est juste à côté, sont très forts pour dire que, évidemment, tout ça est quelque chose qui est fructueux de part et d'autre.
Est-ce qu'on peut dire que les expositions temporaires comme celle-ci amènent un plus à cette galerie du temps qu'on a vue pendant un moment, qui va être renouvelée, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle donne des points de vue différents sur le monde et qu'elle offre à d'autres artistes la possibilité d'être vus?
Absolument, moi je tiens beaucoup au genre de l'exposition temporaire en tant que telle. Je pense que c'est très important que ça ait lieu, parce que c'est l'occasion de juxtaposition qu'on fera pas pour longtemps, mais qui sont très intéressantes de les avoir pour un temps donné. Si on pense par exemple en ce moment ici, le rapprochement dans l'exposition entre les grandes toiles de Yan Peiming, un artiste contemporain d'origine chinoise, et le tableau d'Edouard Manet prêté par Orsay, L'évasion de Rochefort, ou le rapprochement entre les œuvres, l'œuvre de Zaouki qui date de sa naturalisation en France et les œuvres de Raoul Haussmann qu'il a créées au moment où il a dû quitter l'Allemagne après avec la montée du nazisme. C'est des rapprochements qu'on fait pour une exposition et qui font partie ensuite de l'histoire de l'œuvre, mais qui n'ont pas vocation à rester de ce point de vue-là. Et je pense que c'est... L'exposition, c'est un précipité assez fort d'un moment donné. C'est un peu comme un spectacle, hein, d'une certaine manière, en partie. Et ça a quelque chose de très important et ça permet aussi de renouveler la pensée. C'est aussi une occasion de rencontre. C'est l'occasion de la rencontre avec vous, avec les visiteurs. C'est l'occasion de la rencontre entre artistes. Donc, c'est absolument important.
Et donc, ce thème exil et regard d'artiste, ça pourrait être un piège si on avait pour chaque artiste qu'une vision très directe, vous avez su composer et mettre en perspective.
Alors ça, j'y tenais vraiment beaucoup. Je tenais beaucoup à cette mise en regard, à cette mise en perspective, comme vous venez de le dire, à cette scénographie très très bien réalisée par les ateliers Massièche Fischer, qui permet d'avoir comme ça des regards croisés, ce qui fait que, par exemple, on a à la vision, elles ne sont pas dans le même espace, mais on a la vision ensemble de la mer du Nord par Frank Smith à Calais et celle de la mer Méditerranée par Marco Godino, où quand on s'éloigne, on voit à la fois le tableau de Mivekanin et celui de Zaouki. Donc tout ça, c'est des éléments effectivement très forts de co-visibilité. C'était aussi pour moi la grande volonté que chacun compose son propre parcours, parce que l'exil n'est jamais linéaire, hein, il y a au contraire quelque chose plutôt de circulaire, de retour, et tous ceux qui ont vécu ces parcours-là, et on le voit bien aussi dans l'exposition, font des allers-retours, repartent en arrière, avancent ailleurs. Et je voulais aussi que les visiteurs aient cette expérience physique en choisissant leur déambulation.
Alors, dans cette déambulation, les gens de notre région, forcément, peuvent être très sensibles à ce qui se passe à Calais ou ailleurs. Hein. On est dans cette thématique abordée quand même de façon assez large ici.
Bien sûr, c'est une thématique qui nous touche tous, qui touche particulièrement les gens de la région du Nord-Pas-de-Calais, hein, notamment le Pas-de-Calais. C'est quelque chose que j'ai voulu montrer, parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas en parler, ça aurait été, je pense, aussi maladroit hein, de ne pas le faire, mais j'ai voulu le faire avec des œuvres qui sont, là aussi, pas littérales par rapport à la représentation, notamment deux œuvres, l'une d'Annette Messager, qui est née à Berck, hein, donc qui est née dans la région, et l'autre de Frank Smith, qui est née à Calais, donc qui est vraiment aussi née dans la région, et qui, l'un et l'autre, en fait, parlent de ce sujet-là, mais en déplaçant un peu le regard. Annette Messager, avec des planètes qui gonflent, et qui parfois élève les pantins qui sont accrochés, parfois les écrase, donc avec ce côté du rapport de l'être humain à la frontière. Et puis Frank Smith avec un très joli petit film commandé l'année dernière par le conservatoire du littéral, un doux petit film, les films des objets, où il est allé rechercher des traces sur le territoire de la jungle de Calais, et où n'en trouvant pas, il a réinventé des éléments, et avec quelque chose qui est dominé tout le long du film par le souffle du vent qu'on entend. Il fait beau, hein, on est en juin, en juillet, mais on entend le souffle du vent tout le temps, et ce souffle du vent, c'est aussi le souffle de la vie, le souffle de quelque chose qui est là, qui est présent, qui convient ni de stigmatiser ni d'ignorer, mais dont il est important qu'on en soit tous héritiers ensemble.
Voilà, donc cette exposition est multi-support, hein. Il y a vraiment une grande diversité à la fois des artistes, mais aussi de leur façon de travailler et des supports qu'ils utilisent.
Absolument, c'est une exposition dans laquelle on a à la fois des peintures, des sculptures, des estampes, des dessins, des photographies, des installations, des films, au reflet des artistes d'aujourd'hui, avec la recherche non pas de copie entre artistes, ce qui n'est pas très intéressant, mais plutôt de résonance, qui me semblait quelque chose de plus fort.
Voilà une très belle exposition, donc temporaire. N'hésitez pas à vous y investir pour découvrir cet univers vraiment intéressant et très diversifié, riche d'œuvres. C'est bien sûr au musée du Louvre-Lens. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, campusil.com et en DAB+ sur la métropole lilloise et sur l'Artois.